J'ai rembobiné la cassette plusieurs fois, il y a rien dessus.
Ah ouais?
Cette cassette ne fonctionne pas.
La vôtre, ça donne ça?
Mais regarde, il y a que de la neige sur toutes les bandes.
Ça vient de la télé, Mike.
Montre-moi ce que... Pourquoi elle fait ça?
Ça fait pareil à toi.
Oh là là, c'est... Attends, c'est quoi ton problème? Pourquoi ça fait ça quand tu fais ça?
T'es magnétisé! C'est toi qui effaces toutes les bandes, c'est à cause de toi!
Il faut qu'on trouve d'autres cassettes.
J'ai une meilleure idée. Viens, suis-moi.
Si tu te balades dans la rue,
ouais,
et que tu croises un petit fantôme,
quoi?
Sonne SOS fantôme qu'il se met en chasse.
Attends, c'est quoi ça?
La chanson du film, elle est comme ça pourtant.
C'était pas ça?
Je parierais que si.
Reste où tu es, surtout ne bouge pas, je viens.
Je suis anglais, moi.
C'était pas mal. Vous avez quoi d'autre?
Je vais te descendre, et en karaté robot, j'ai peur de personne.
Nos films, c'est autre chose que des simples remakes.
C'est devenu comme ça dans notre cité.
Notre version est meilleure.
Notre version ne dure que 20 minutes.
On est des célébrités maintenant. Tout le monde me reconnaît dans la rue.
C'est parti pour le baiser, vas-y, vas-y, embrasse-le.
Pourquoi il faut que j'embrasse Wilson?
Tu dois l'empêcher d'exploser la tête.
Jamais je l'embrasserai.
Amateur.
Les gens ont envie de voir ces films.
Je suis mandaté pour procéder à la destruction de ces bandes. L'avertissement du FBI, ça apparaît avant chaque film aussi.
Mais on a effacé tout ça.
Qu'est-ce qu'ils sont forts, ces gens-là? Ils sont à l'aise dans tous les styles.
Vous en rêvez? On va le tourner. Big Bang Rewind, vidéo à la carte. Bam! Nothing from nothing,
deep, nothing. Aux films qui ont du cœur. Et une âme.
Miss Daisy et son chauffeur.
Non, c'est pas là.
Et tu sourds à la fin.
Et maintenant,
je suis dehors. Je te défends de parler sur ce tour. Allez, cours comme le vent. File. Mike.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma de RCN 90.7. Et oui, ce bon vieux Jack Black, Mos Def, on va donc revenir sur le film de Michel Gondry, Be Kind Rewind, sorti en France sous le nom de...
Soyez sympa, rembobinez.
Bonjour Guillaume, comment
ça,
tu vas?
Ça va et toi?
Ça va très très bien. Et oui, donc on va revenir sur ce film, donc sorti en 2008, ça date un petit peu maintenant, quand on y pense. Hein. Dans un an, ce film aura 18 ans.
Voilà, 18 ans, donc, ouais, 18 ans, vas-y, ouais.
Ça va le coup de vieux?
Ah ouais, je venais de finir le lycée, j'entrais en fac.
Voilà, parfait. Parfait, on va continuer sur le côté vieillot. Car avant de parler de Be Kind Rewind, il faut quand même revenir sur le réalisateur. Michel Gondry. Alors Michel Gondry, bon, il est pas méga vieux non plus. Hein. Il est né donc le 8 mai 1963 à Versailles. Mais en fait, pourquoi je dis un petit peu vieillot? Parce qu'en fait, pour revenir sur Michel Gondry, il faut revenir un petit peu sur toute l'histoire un peu de sa famille, parce que ça montre à peu près quel bonhomme c'est en fait derrière. Son grand-père Constantin Martin en fait était l'inventeur du clavioline, qui est en fait un des tout premiers synthétiseurs de l'histoire. Son père a été électronicien, il a été informaticien avant de devenir aussi dans la société de son grand-père maternel, donc de Constantin Martin, en tant qu'inventeur également. Dans sa famille, on retrouve également son frère François Gondry, c'est l'ex-bassiste de Ludwig von 88. Il a été notamment aussi le co-créateur de la marque Goéland, qui était un fameux site connu pour la revente de produits et d'articles de vêtements issus du milieu du métal et du rock. Son autre frère, Olivier, est lui réalisateur en fait de clips, de pubs. Il a été également membre des Négresses Vertes. Donc forcément, vous voyez à peu près où je veux en venir. Michel Gondry en fait a été baigné totalement en fait dans le milieu culturel et aussi forcément de l'invention et de l'informatique.
C'est drôle parce que c'est des choses qu'on retrouve après, la musique, oui, tous les clips qu'il a pu faire et les inventions qu'on retrouve dans ses films. Donc en fait, il a été, c'est ce qu'il a créé en tant que cinéaste après, quoi. Ça l'a vraiment transcendé, ça l'a vraiment porté tout au long de sa vie, quoi.
Oui, oui, non, ça a totalement porté toute sa vie. Et c'est quelqu'un, en fait, de très intéressant parce que finalement, on le voit, en fait, durant son enfance. Il a grandi du côté de sa mère aussi, qui notamment faisait, était très portée sur les côtés cultes métaphysiques et spirituels. Elle a même un temps été, membre du mouvement sectaire Fraternité Blanche Universelle. Mais en fait, son enfance, Gondry, forcément, il l'avoue à la culture, il l'avoue à l'art, il voulait être inventeur, il voulait être peintre, et finalement après un BTS dessin, il passe et poursuit sa formation en fait à l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art à Paris, donc l'école Olivier de Serres.
Il est au niveau de la musique ici aussi, il se met à la batterie, il se dit ouais. Tiens, la batterie c'est intéressant parce que c'est vrai que généralement c'est plutôt on se met plutôt à la guitare et tout, il dit non, moi la batterie j'aime bien parce qu'il faut frapper fort.
C'est ça.
Ça l'intéresse beaucoup. Tout ce qui est frapper, les rythmes, les percussions, tout ce qui est ça va beaucoup l'inspirer. Et quand il commence les débuts de ses études et tout, il a un pote qui a une petite caméra. Et il lui dit, tiens, tu peux me la passer. Et il commence à bricoler avec des bouchons de bouteilles, avec du papier carton et tout. Il fait un espèce de des petites voitures et il crée un espèce de petit mini court-métrage avec des voitures qui font le tour d'une route imaginaire. Et c'est déjà, quand on voit ce court-métrage, ces petits extraits-là, c'est déjà le début de ce que va être Michel Gondry, ce truc un peu loufoque avec de la musique, avec des trucs faits de briquet de broc et tout. Et...
Ouais, c'est ses premiers clips, notamment pour le groupe donc, Oui Oui qu'il va développer. Donc... notamment à côté de ses études. C'est d'ailleurs un groupe qui va marcher, auquel il va faire les clips notamment. En fait, ça va le développer un peu sur le côté artistique, donc il va travailler énormément sur le dessin. D'ailleurs, entre-temps, il a également été dessinateur pour certains projets, notamment par exemple pour Raon. Et c'est vrai qu'en fait, à côté de cela, donc, il va travailler notamment sur des effets cinématographiques. Il va notamment se prendre d'affection pour, par exemple, le stop motion, les mouvements comme ça dans ce style-là. Et après, plus tard, même il va travailler à fond sur ce qu'on appelle le morphing, car forcément après avoir fait beaucoup de clips pour son groupe Oui Oui, il va en réaliser pour d'autres, et c'est surtout grâce à Björk en fait, car il a été repéré par Björk par ses idées farfelues de montage, de clips, et qui voyait en fait en lui son réalisateur en fait pour ses prochains projets en fait. Et c'est vrai que Björk, avec son univers assez décalé, ça correspondait parfaitement avec l'idée de Michel Gondry, quoi.
Ce qui a permis après lui de développer aussi, d'aller un peu plus loin avec les Rolling Stones, avec I.A.M.
Après il a fait énormément de collabs par la suite. On le retrouve donc notamment avec les Rolling Stones, où il a fait donc la reprise Like a Rolling Stone, qui a fait le groupe, forcément la reprise de Dylan. I.A.M., il a fait donc
Je danse le Mia.
Daft Punk, ça a été aussi Around the World. Kylie Minogue, c'était Come Into My World.
Chemical Brothers aussi, il y a
Chemical Brothers également.
Avec cette idée, et toujours mélangé, il y avait ce truc de cette idée de train qui passe, et à chaque fois qu'il y a une ligne de...
Pour moi, c'est un de mes clips préférés de Gondry, en fait, voilà. C'est ouais, le Chemical Brothers, c'est donc le morceau, mince, j'ai oublié le nom
du
morceau.
Je sais plus le nom du titre, le nom du morceau de... Mais c'est impressionnant parce qu'à chaque fois qu'on a, en fait, tout ce qu'on voit à l'écran, mais à la même chose avec Daft Punk, tout ce qu'on voit à l'écran a un sens. Et par exemple, dans celui de Daft Punk, tous les personnages correspondent à un rythme qu'on entend dans la musique. Et c'est la même chose avec Chemical Brothers, où vous voyez ce train... On regarde la fenêtre d'un train et on voit ces poteaux. Et à chaque fois qu'on passe un poteau, en fait, on a un rythme.
En fait, j'ai retrouvé le nom du clip, c'est Star Guitar. Et en fait, donc vous avez en fait ce plan fixe dans un train. Et en fait, tout est numérisé. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que l'on voit à l'image, en fait, tout a été retravaillé numériquement. Et chaque en fait, intonation musicale correspond, chaque note musicale correspond à un élément de décor.
Tout à fait.
Notamment, par exemple, les premières touches de guitare, en fait, c'est les poteaux électrique, puis on retrouve derrière forcément toutes les différentes touches de notes musicales en fait correspondent à un élément du décor, et même quand il y a par exemple ce pont musical, forcément ça passe sous le pont.
Par un pont.
Voilà.
C'est assez ingénieux, et en fait c'est ce qui fait que ces clips on les a retenus quoi, même maintenant. C'est des clips qui ont marqué en fait, et qui ont permis après d'aller tout doucement vers le cinéma au final.
Voilà, Finalement, Gondry, c'est l'équivalent aussi de ce que l'a été Spike Jonze aux États-Unis. Mmh. Spike Jonze, forcément, à un moment donné, allait passer au milieu du cinéma. Et Michel Gondry, eh ben, c'est également la même chose. Et intrinsèquement, finalement, ils ont eu la rencontre aussi fatidique avec un scénariste, dans le même sens, c'est Charlie Kaufman. Parce que finalement, Charlie Kaufman a aussi lancé Spike Jonze. Enfin, lancé. Ils ont collaboré donc, pour le premier film de Spike Jonze, donc dans la peau de John Malkovich. Mmh. Et aussi, donc, Michel Gondry, ça va être la même avec Human Nature, sorti en 2001. Alors, par contre, le film n'a pas eu la même aura que dans la peau de John Malkovich. Le film a été un échec cuisant, mais finalement, la collaboration avec Charlie Kaufman va se poursuivre, et notamment c'est avec le deuxième long métrage que Michel Gondry va totalement aussi percer grâce à Eternal Sunshine of the Spotless Mind, donc aussi et surtout grâce aussi avec son duo d'acteurs quand même qui marche très très bien là-dedans, ouais. Jim Carrey et Kate Winslet.
Oui, Jim Carrey qu'on retrouve aussi dans un... Enfin, il... je veux pas dire de bêtises, c'est la première fois qu'on voit Jim Carrey comme ça. Il a été habitué à la comédie et là, on le voit dans un truc mais totalement... Ouais. Et c'est assez exceptionnel la façon dont il l'a filmé, il l'a amené vers autre chose.
Voilà, en fait. Et surtout que Eternal Sunshine, en fait, devait initialement être fait pour 2003. Finalement, il a été fait pour 2004. Et quand il a fait ses castings et que Jim Carrey a été sélectionné, il lui a demandé... s'il pouvait en fait rester en dépression un peu plus longtemps parce que le tournage allait être retardé. Et c'est ce que Jim Carrey a fait. Voilà. Non, mais c'est vrai que voilà, il y a aussi ce côté très, très conceptuel en fait chez Gondry. Et finalement, c'est pas plus anodin de voir déjà dans Human Nature et surtout Eternal Sunshine en fait les idées qu'avait déjà développé Gondry dans ses clips, mais qui va l'être encore plus à partir de 2006 avec La Science des Rêves, car là on est sur vraiment le tout premier scénario écrit par Gondry.
Et là, on arrive, de souvenir, je sais que c'est avec Gaël Garcia Bernal.
Gaël Garcia Bernal, Alain Chabat, voilà.
Et Charlotte Gainsbourg, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et où on a tout cet univers, justement, de papier, de complètement barré de choses.
En fait, relier le milieu on va dire le milieu professionnel du personnage principal, donc avec les bureaux, le côté papier qui est là tout le temps, l'imprimerie, et de l'autre côté, forcément, les rêves. Le côté onirique est forcément farfelu que provoque Gondry dans ses films, quoi. Mais c'est vrai que voilà, on retrouve un peu ces idées en fait, un peu carton-pâte, papier mâché, qui est très très représentatif de ce que faisait déjà Gondry, même à ses tout débuts en tant que réalisateur de clips, que ce soit avec les White Stripes aussi, il en a fait énormément, qui est dans un style très très similaire, notamment il avait même fait carrément totalement en Lego, en stop motion. Finalement, en fait, on retrouve un petit peu le Gondry stylistique d'avant.
Ouais, tout à fait. Et c'est ce qui marque à chaque fois quand tu vois un de ces films. Moi, tu vois, dans La Science des Rêves, j'ai ce souvenir de ce truc, un peu de ce truc de carton autour. Ouais. Et Gaël Garcia Bernal et Charlotte Gainsbourg qui sont sur un cheval qui est en espèce de nounours, qui est pas un vrai cheval, mais un cheval en ours, et tu les vois se balader et tout. Et puis, il y a ces incursions entre le réel, et puis hop, tu passes dans un truc, sans savoir vraiment pourquoi, mais tu passes dans un truc un peu onirique. Et c'est ce qui fait que ça te marque, en fait. Mm-hmm. C'est des films qui te marquent même des années après, quoi. Et qui va poursuivre encore avec justement Beacon Rewind.
Beacon Rewind qui a été tout de suite fait en fait après La Science des Rêves. Donc c'est un projet aussi que finalement le concept de Beacon Rewind en fait me fait rapprocher en fait l'idée d'un épisode qui a été fait par une série américaine qui s'appelle The Amanda Show, qui a été diffusée aux États-Unis en 1999. Dans cet épisode en fait on retrouve des propriétaires de vidéoclubs qui en fait louaient des parodies de films célèbres où ils jouaient eux-mêmes les héros. Donc forcément, on retrouve un peu l'idée du film Be Kind Rewind. Et c'est vrai qu'en fait, donc, Be Kind Rewind est un film, je trouve, très intéressant sur en fait, son idée conceptuelle. C'est-à-dire qu'en fait, Gondry déjà comprend qu'avec ce film, il y avait même plus à faire aux États-Unis qu'en France. En fait. Et il le dit lui-même. En France, après La Science des Rêves, et déjà même avant, en fait, il le disait lui-même, je ne sais pas où me cadrer, je ne sais pas où me mettre. Dans le milieu du paysage français, parce que finalement, il est loin du cinéma commercial, mais il est aussi très loin, en fait, du cinéma, ce que l'on appelle, en gros guillemets, d'auteur.
Oui, c'est vraiment un cinéma
lui,
à part.
Il se retrouve dans ni l'un ni l'autre.
Non, c'est vrai. Et que pourtant, tu peux pas le catégoriser.
Peut-être même les deux, en fait.
Ben, c'est ça, manière. Oui, parce que, surtout en plus avec Be Kind Rewind, où il fait appel à des stars quand même, voilà. Que ce soit Mos Def ou Jack Black, ou même alors Danny Glover, Sigourney Weaver. Enfin, il fait quand même appel à des personnes qui ont fait des gros blockbusters, que ce soit Sigourney Weaver avec les Ghostbusters, avec les Aliens, Danny Glover avec L'Arme Fatale. Donc il fait appel, il arrive à faire appel à ces gens du blockbuster. Et en même temps, il tourne ça dans des lieux très... il tourne ça à Passaic, qui est un petit quartier de New York. Et tu te dis, ça pourrait faire vraiment un truc d'auteur sur une petite personne. Enfin, c'est pas un truc à grande échelle. C'est vraiment à hauteur de quartier, quoi. Des films à hauteur de quartier.
Surtout que c'est un petit film, en fait, produit par New Line. On a Focus Features également. Et c'est vrai qu'en fait, voilà, cette idée de tourner à Passaic, c'est une chose que Gondry voulait faire, c'est-à-dire être... assez éloigné de New York, mais avoir ce côté en fait quartier, banlieue, assez proche en fait du style très très côte est américaine. Et forcément en fait, Passaic, on est sur un tout petite ville en périph qui est à quelques kilomètres en fait du New Jersey. Et c'est vrai qu'en fait Passaic, ouais, c'est Passaic. À quelque chose de très particulier chez Gondry, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est là où on voit que peut-être c'est le film dont on va parler forcément après, qui est peut-être le plus américain, je trouve, dans sa filmographie, parce qu'il est très, 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 très communautaire. Et c'est vrai qu'avec Passaic, en fait, pour vraiment s'installer dans ce lieu de tournage, parce que finalement, ils vont tourner exclusivement là-bas, par quelques plans, quand même, dans les environs de New York, vraiment de garder cet aspect très stylistique, et surtout, forcément, de montrer un peu cette Amérique et ce côté communautaire. En amont, finalement, ils vont travailler bien avant le tournage là-bas. Ils vont aussi provoquer aussi des soirées réunions avec les communautés de la ville, avec les habitants. Ils vont faire aussi des soirées dansantes. Ils vont vraiment essayer de communiquer à fond avec ces gens-là. Et c'est même, d'ailleurs, ça va même aller beaucoup plus loin, c'est que finalement, en fait, la distribution du film, on va dire pour les certains second rôles et même des troisième rôles, c'est des habitants de
Ouais, il a vraiment fait un travail. Alors c'est drôle parce qu'en théâtre, on appelle ça des créations partagées et tout.
Oui.
Et il a fait un vrai travail de territoire où il vient des semaines avant. Il travaille sur une chorégraphie qui, avec les habitantes et les habitants qui figurent dans une partie du film, dans un des films qui va tourner. Il fait appel aux habitantes et aux habitants pour les faire tourner des personnages, effectivement, secondaires, des troisième rôles. Mais il fait appel à la ville, quoi. Il y a vraiment un vrai travail de ville. Ce qui est assez fou parce que quand il y allait, je crois que c'est un moment dans le making-of du film, il en parle. C'est un de ses mécaniciens qui s'appelle Irv, qui habite à Passaic. Et il vient le voir et il est devant ce truc, cette espèce de centrale qu'on retrouve après dans le film et tout. Et il voit la beauté de la ville et il dit « Putain, mais il y a un truc à faire en fait. » Et c'est en voyant là, en voyant le quartier, en voyant le truc, il dit « Il y a quelque chose à faire avec ces gens-là, il y a quelque chose à faire avec cette ville. Il y a un truc qui ressort, qui donne envie de travailler là, quoi, et de montrer la beauté de cette ville-là. » Et c'est ce qu'il a fait après dans Be Kind Rewind, quoi.
Et c'est ce qu'il a fait totalement avec Be Kind Rewind, parce que finalement, donc, on est sur un petit film, donc, comme je le disais, à 20 millions de budget, on est vraiment sur quelque chose de petit et de concret. Et c'est vrai qu'en fait, le truc intéressant avec le film-là, c'est tout le développement, en fait, tout le contexte qu'il va mettre en place. Finalement, Be Kind Rewind, c'est quoi ? Ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire de Jerry et Mike, qui sont deux amis. L'un bosse, en fait, dans un vidéoclub géré donc, par le personnage de Danny Glover, Elroy Fletcher, qui a toujours aussi... développer un peu cette légende de la ville de Passaic où notamment vivait dans cet immeuble Fats Waller qui est une des légendes forcément du jazz.
Ouais. Il aurait vécu, en tout cas, ce qu'il raconte aux jeunes du quartier, c'est que Fats aurait vécu dans son immeuble à lui, quoi. Mm-hmm. Et donc, il développe toute cette histoire sur ce chanteur de jazz qui a vécu là, qui a eu des choses extraordinaires. Enfin, il a eu une vie rocambolesque, enfin, il lui crée une vie rocambolesque, quoi. Et effectivement, il a ce truc de le comment dire le il y a tout dans ce personnage qui a le truc de de la nostalgie.
Ouais.
De déjà le fait de garder des cassettes et de la location de VHS alors que à côté tu as des grosses trucs de vidéoclub qui vendent des DVD qui sont mis au DVD qui proposent des DVD, le truc de d'être dans un bâtiment qui est presque en ruine alors que tout est en train de se reconstruire
totalement délabré à côté en fait, donc la mairie en fait a prévu de raser le bâtiment pour construire donc toutes des résidences qui sont forcément plus riches. C'est l'un des contextes du film d'ailleurs, hein. On peut en parler tout de suite, hein. Finalement, Be Kind Rewind n'est pas qu'une simple comédie. En fait, c'est un film social, forcément, sur les petites villes, sur les quartiers qui se battent constamment contre la gentrification. C'est un des cœurs du film, en fait. Même si le film, je trouve qu'il en a beaucoup, en fait. Et c'est peut-être l'un des problèmes du film, c'est-à-dire qu'il parle de beaucoup de choses et qu'il a du mal à se concentrer sur quelque chose. Mais c'est vrai qu'en fait, voilà, c'est un film qui a beaucoup de choses à parler. C'est peut-être aussi possiblement le film le plus représentatif du style de Gondry, je trouve. Donc on est sur un film, déjà, un, totalement burlesque et deux, totalement inventif. Parce que finalement, les deux personnages de Jerry et Mike, à un moment donné, donc Mike va demander à Jerry... Non, Jerry, c'est...
Jerry, c'est dans Keep Jerry Out, donc c'est Jerry, c'est
Jack
Black.
Jack Black, voilà, pardon.
Qui doit à Jerry... tout prix, parce que du coup, Monsieur Fletcher, il doit partir, il part. Parce qu'on voilà, on lui, comme dans tout bon film, on met un ultimatum, vous avez 6 mois pour réunir tel argent, si vous le réunissiez pas, bah, du coup, on va détruire votre immeuble et on va mettre, justement, on va en refaire de nouveau. Donc il a 6 mois pour réfléchir à ça, lui part, il demande à Mike de surveiller le vidéoclub, et il se trouve que Jerry, il a voulu attaquer une centrale qui est juste à côté et il se fait magnétiser à cause de cette voilà. centrale.
Le problème, c'est que quand Jerry rentre dans le magasin, il démagnétise toutes les cassettes. Et forcément, donc, il n'y a plus rien à louer puisque plus rien n'est sur les cassettes.
Et la seule solution qu'ils trouvent, donc des gens viennent pour louer et ils n'ont pas envie que M. Fletcher...
Voilà.
Parce qu'il y a un lien aussi qui se crée entre M. Fletcher et Mike, qui est un peu... C'est un peu le père...
Relation père-fils.
Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc, il ne veut pas décevoir M. Fletcher, ils essayent de trouver une solution et là, ils ont l'idée du siècle.
Et surtout qu'il y a le coup de cœur du personnage d'Elroy Fletcher, qui est Miss Falevitz, qui demande en fait la cassette de Ghostbusters.
Tout à fait. Oui.
Et là, ils ont donc 3 heures pour faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils décident de faire? De refaire de leur propre façon, donc SOS Fantôme.
Tout à fait. Et donc ils vont dans une bibliothèque, ils trouvent tous les moyens, ils refont les scènes, ils refont la chanson, ils refont... Et donc du coup, comment faire ça tout en ayant la VHS? Bah, ils décident d'utiliser une caméra VHS, en fait. Mmh. Et donc du coup, ils refont tout ça. Et quand on leur demande comment ça s'appelle ces films qu'ils ont faits, ils disent bah, c'est des films suédois.
Et en fait, le verbe suédé, ça vient donc forcément du nom de la Suède, car en fait, Jerry et Mike prétendent que les films en fait proviennent de ce pays, et ce qui leur permet donc d'expliquer en fait le délai d'approvisionnement des cassettes et aussi le prix élevé. Bien évidemment, c'est tout complètement faux, et donc en fait, ils font leur propre film, et ils se rendent compte qu'à partir du deuxième qu'on leur demande de faire, donc c'est Rush Hour 2, ils ont besoin de quelqu'un parce que finalement, le personnage de Jerry ne veut pas embrasser son garagiste, et arrive aussi l'autre personnage aussi important du film. Donc Alma, le personnage de Melanie Diaz, qui va être aussi un peu le cœur central aussi de cette bande, où elle en fait elle va être là pour les aider, être vraiment le, on va dire le ciment du groupe,
celle qui va permettre que tout ça puisse fonctionner et pas se casser la gueule, et que justement de trouver une astuce de comment on fait pour que les gens puissent venir, qu'en même temps ça leur laisse du temps pour enregistrer les vidéos et les re-ramener et créer un vrai commerce en fait, celle qui va
et c'est ça en fait, voilà, le film évolue, donc il y a un succès immense de ces cassettes là et donc en fait ils vont procéder à des espèces de filtres, notamment quand on voit la jeune brune qui demande de trouver la version de Fast and Furious, ah non vous avez une mauvaise note, on peut pas faire ce film, il faut un délai de 20, il faut un acompte de 20 $, et là ça provoque déjà des remous chez certaines personnes, mais ça continue d'évoluer par la suite et forcément il y a un des personnages qu'on se dit tiens mais moi je viens de New York, j'apprends que machin il y a ça, et en fait c'est ce personnage là qui, on se rend compte plus tard, en fait était à la solde des avocats des grandes sociétés de production qui bien évidemment vont demander à ce que ces cassettes soient détruites.
Parce que, bien évidemment, c'est ce qui est écrit sur les cassettes aux États-Unis.
Voilà.
C'est ce que nous, on peut avoir avec, vous savez, la vidéo « Voler, c'est mal ».
Oui, voilà, c'est ça.
Mais alors pourquoi « Voler, tuer, c'est mal », alors pourquoi enregistrer des vidéos? Et là, c'est la même chose. Ils expliquent que sur les cassettes VHS aux États-Unis, il y a un mot du FBI qui
toujours,
dit que c'est interdit. C'est illégal de recopier des cassettes. Mais du coup, voilà, c'est tout ce truc sur est-ce qu'on a le droit de réinventer les films, et est-ce que finalement, c'est pas ce qui amène à inventer son propre film et sa propre histoire.
Bah, forcément, il y a toute cette thématique-là, parce que finalement, là, on est vraiment sur quelque chose où c'est très représentatif de on refaire ses propres films, c'est de la parodie, c'est de l'hommage. Donc on voit une inventivité sur plusieurs échelles, que ce soit de la mise en scène dans les décors, les éléments faits de briques et de brocs. Par exemple, quand il y a cette parodie du Roi Lion, en fait, c'est du papier, quoi, tout simplement, c'est du carton. Mais en fait, l'idée de reprendre les films avec les moyens du bord, le côté suédois, en fait, forcément, ça montre l'inventivité, la création, le partage, le travail collectif, en fait, et forcément, donc, cette confrontation, comme on disait, avec les personnages des avocats, donc les face aux puissants et égoïstes capitalistes qu'on représente les méchants.
Vilains, c'est les méchants.
Alors, c'est vrai que ça semble une morale très, très naïve, mais en fait... ce qui est bien avec ce film, en fait, c'est que ça ne va pas au-delà, en fait, d'un simple conte moderne. Le film ne va pas en rajouter des caisses. Et c'est la grande force du film, en fait, c'est ce côté attachant.
Oui, tout à fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée de se réapproprier les films qu'on a vus dans notre enfance. Se dire que... Et d'ailleurs, c'est ce que Michel Gondry dit aussi dans le making-of ou dans les différentes interviews qu'il a fait. C'est qu'il ne demandait pas aux comédiens et aux comédiennes de revoir. Le but n'était pas de refaire à l'identique les films, c'était de justement de retravailler sur les souvenirs de comment tu te réappropries un film que t'as vu et que t'as aimé. Et ça, je trouve que l'idée là est assez folle. C'est vrai qu'on a tous son expérience du cinéma. Pour un film, tout le monde va avoir une expérience différente, et c'est comment toi tu te le réappropries après.
Ouais.
C'est d'ailleurs, tu parlais du Roi Lion, c'est très drôle dans le Roi Lion quand il dit j'irai pisser sur la tombe de vos ancêtres.
Ouais.
Il dit mais attends, mais c'est un film pour les enfants. Ouais, mais c'est ma version. Enfin, on fait pas le premier, on fait le
voilà,
deux.
C'est ça.
C'est comment tu te réappropries les choses, la culture pop. En fait, comment cette culture pop elle nous a nourri et comment on la réinvente aussi. Et ça, je trouve ça très fort.
Quand vous revoyez le montage, en fait, notamment quand ils refont toute la séquence de Rush Hour 2, bon, déjà Jack Black joue Jackie Chan et Mos Def joue Chris Tucker, mais au-delà de ça, en fait, il y a ce côté, en fait, à quelle scène ça correspond à quel film, enfin, à quelle scène correspond à l'original et compagnie. On s'en fout, on s'en rappelle pas, parce que c'est un peu l'un des buts du film, en fait, c'est de la réappropriation, en fait, parce que finalement c'est là où il y a cette confrontation, comme je disais, en fait, donc entre les studios et le bien public, parce que finalement les films, avec le temps, appartiennent-ils réellement au studio, ou finalement appartiennent-ils à nous dans notre inconscient collectif? Il y a un peu cette culture là aussi dans ce film, quoi.
Ouais, tout à fait. Et puis le truc de se dire c'est un moment que tu partages, enfin, je trouve que même toute cette idée de, en fait, plus ça avance, plus ils vont pas le faire qu'à deux, ils vont avoir besoin, s'ils veulent faire autant de films, ils sont obligés de demander de l'aide des habitants.
Et on le voit
en fait,
dans Robocop, notamment, voilà. Où il y a le fils de le neveu de Madame Falavitz
qui tire,
voilà.
Ils font Boys in the Hood, qui sont tous avec des fausses perruques, mais dégueulasses et tout. Et qui... mais c'est très bête, c'est très drôle, parce que du coup, nous, en tant que spectateurs, ce qu'on aime bien, c'est voir les petites références, les petits films et tout. Mais là, du coup, c'est même plus tant le film qui est important, c'est de voir le partage du truc, de se dire que finalement, le cinéma, c'est ça aussi. C'est partager des films ensemble et tout. Et je trouve que ça, ce truc en sous-texte, est très beau. C'est pas non plus trop appuyé. C'est assez simple, en fait. C'est fait simplement.
Oui, et c'est pour ça que c'est peut-être aussi le film le plus américain de Gondry, en fait, d'une certaine manière. Parce que finalement, là, on retrouve toute l'idée, en fait, communautariste du film. Ce qui, forcément, est très très représentatif de la société américaine, hein, le côté communautaire, que ça soit donc communautaire ethnique ou village. Là on est plus sur le côté de la ville de Passaic, qui finalement veut se battre aussi d'une certaine manière pour éviter un espèce de perte d'identité avec l'évolution de la ville et la gentrification qui y amène, quoi.
Tout à fait, ouais, carrément. Et même identité par rapport au film qu'ils créent, parce qu'à un moment, quand ils explosent les films, tu vois les gens qui s'énervent, qui essayent d'arrêter le truc, et que finalement, ils se font écraser par le rouleau compresseur de la vie, qui est justifié par un gros rouleau compresseur qui vient casser
toutes les cassettes.
Mais t'as ce truc, ouais, c'est comme tu disais, le film devient un prétexte, mais c'est plus la vie de la ville, en fait. tu vis à travers ça. Et puis, comme tu disais, on retrouve l'imaginaire de Gondry dedans, dans tous les différentes, dans toutes les différentes scènes. Et à chaque fois, il y a des trucs, des inventions qui sont assez folles.
Le plus fou, ça reste le plan séquence où en fait, on voit les différentes successions de films suédois, notamment qu'on retrouve notamment Men in Black avec le faux rouleau avec les véhicules comme ça où on remet la caméra à l'envers, ça fait la scène dans le tunnel, ou 2001, l'Odyssée de l'espace avec la roue. Il y a plein d'idées ultra intéressante, ultra novatrice, qui forcément avec ce côté carton pâte et compagnie rend le tout très attachant et qui amène aussi forcément à cette idée de les films en fait ça nous appartient.
Et puis l'idée de génie aussi d'avoir cette différence entre quand il filme le film, enfin quand il filme l'histoire, c'est une caméra plutôt classique, enfin c'est une image plutôt propre, une belle image de cinéma. Et puis après quand il va filmer les films filmés,
avec la cassette,
là avec caméra avec cassette caméra, et tout, avec cette idée de, on voit le grain et c'est ça qui est assez beau, c'est de voir le grain,
le côté très très vieille cassette, les vieilles bandes en fait tout simplement. Et comme le dit Jack Black quand ils font, enfin le personnage de Jerry quand ils font le tout premier Ghostbusters, tu fais, mais Madame Folovitz elle verra pas la différence, on se met à 3 mètres de la caméra, elle nous reconnaîtra pas. Et donc il y a vraiment ce côté en fait incrédule, et finalement en fait au fur et à mesure ça va être devenir les vraies stars de la ville de Passaic.
Ouais, tout à fait, ouais, carrément.
Donc Jerry va prendre la grosse tête, bien évidemment.
Bien sûr, bien
parce
évidemment.
Que c'est Jack Black.
Parce que c'est Jack Black, sinon ce serait pas drôle. Mais Jack Black, dedans, je trouve que Jack Black, c'est ça qui est
assez
fort.
Il est en retenue quand même.
Il est en retenue, ouais, c'est ça. Il arrive à prendre des petits trucs de Jack Black, Michel Gondry, mais pas à en faire du Jack Black comme on a maintenant.
On n'est pas dans le Jack Black dans Tonnerre sous les Tropiques, par exemple, qui est dans de l'impro total. En fait, Gondry a réussi à maîtriser Jack Black et c'est quand même déjà pas mal pour cette époque-là.
Carrément.
Parce qu'en plus, Jack Black sortait déjà de Tenacious D, In the Pick of Destiny, donc le film dont est relié l'histoire de son groupe, et qui forcément commençait déjà à prendre une ampleur considérable. Quand le film sortait, en fait, tout le monde s'est dit, bon, ça y est, maintenant Jack Black va être établi sur acteur principal de tel ou tel truc. D'ailleurs, peu de temps après, il allait faire donc le Peter Jackson, le King Kong. Et c'est vrai qu'en fait, à ce moment-là, on s'est dit, ah oui, ok, donc Jack Black, là, il va être mis bien en avant dans ce film. Et pas que, en fait.
Bah, ouais. Parce
qu'on a aussi l'importance du personnage de Mos Def, qui est là aussi pour expliquer un petit peu toute cette situation de quel est en fait le cœur et le centre du récit. C'est pas seulement en fait de faire survivre le vidéoclub tel qu'il est, mais c'est en fait toujours de garder l'histoire de la ville. Et finalement, donc, tout va être relié avec forcément la fin, puisque après donc, la destruction de toutes les cassettes, et qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Faire leur propre film. Et donc forcément, comment on va faire ? Eh ben, et donc, ils font relier tout ce qui est sur l'histoire de la ville de Passaic, donc Fats Waller, même si, à un moment donné, donc, le personnage de Danny Glover, donc Fletcher, Monsieur Fletcher, va quand même dire officiellement que Fats Waller n'a jamais existé ici, c'était pour un peu donner une belle histoire, et finalement, cette belle histoire, ils vont quand même la développer
à
travers leur propre film.
Se dire que finalement, c'est pas grave qu'il soit pas allé, on peut faire ce qu'on veut, enfin... Tant qu'on a l'invention, c'est ça qui est assez fort de dire, ben toi qu'on a les idées et une invention, allez on y va, on essaye, et au pire c'est pas bon, au pire c'est pas grave, c'est notre histoire, on la crée comme on veut. Ce qui est un peu aussi le fer de lance un peu de Michel Gondry, où lui il se dit, il a 15 000 idées à la seconde, et des fois il va prendre une mauvaise idée, et il va dire ouais mais la mauvaise idée c'est ça qui m'intéresse, et du coup il va aller creuser dans cette idée et tout, et ce qui fait qu'après il arrive à faire des films comme Beacon Rewind, comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Des films comme ça quoi, qui sont assez fous.
Et puis surtout qu'en fait là, ce film là on est plus sur une vraie lettre d'amour au cinéma aussi, je trouve.
Ah oui,
que ce soit par ses genres ou par ses capacités à travailler l'imaginaire collectif, et comme je disais, donc finalement est-ce que ces films appartiennent avec le temps à nous, ou en fait est-ce que ça reste à la botte des studios. C'est surtout en fait une déclaration aussi d'amour à la puissance du rêve, en fait, à l'inconscient collectif, comme on disait. Donc Gondry a demandé aux acteurs de ne pas revoir les films qui vont être suédés dans Be Kind Rewind, tout simplement pour se le réapproprier d'une certaine manière. Et Jack Black va à fond les ballons quand il va jouer le personnage de Robocop, par exemple.
Je crois même que, par exemple, pour lui, quand il l'a écrit, je crois que même le Rush Hour, il l'a pas vu.
En fait, il avait vu tous les films qui étaient marqués suédois, mais Rush Hour, il a dit non, je vais même pas le regarder. Je vais vraiment faire...
comme moi, je pense que c'est vrai. Et ce qui est drôle, quoi, du coup, c'est vrai que des fois, il y a des films que tu vois en bande-annonce, tu dis, bon, je l'ai pas vu, mais j'imagine que c'est comme ça et tout. Et c'est comment tu te réappropries le cinéma, en fait. Comment tu le fais, tiens ?
Parce qu'il y a une réappropriation, forcément, et c'est ça qui est fort avec Gondry, comme je parlais, de l'imaginaire collectif, de se dire, ah bah oui, mais en fait, on connaît tel ou tel cliché, le cinéma est certes un art jeune, mais il a tellement aussi retravaillé à fond les ballons, en fait, tous ces codes narratifs et de mise en scène, que forcément, un Rush Hour, par exemple, qui travaille sur le Buddy Movies, ben Gondry, il travaille également dans ce film, avec Jack Black et Mos Def aussi. Donc, on a aussi le mec un peu plus la tête sur les épaules et l'autre qui est le personnage totalement farfelu. Donc, il y a toute cette idée-là aussi qui est mise en place dans ce film, quoi.
Et comment tu te réappropries toute l'histoire de oui maintenant c'est que les films maintenant c'est que ah oui parce que t'as aussi la question du mais il c'est vraiment très 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 lointain mais à un moment il dit ouais c'est Mos Def qui dit ah non Monsieur Fletcher va pas être content il aime pas les remakes il dit que ça sert à rien du coup mais t'as cette idée là aussi
parce que l'idée de Be Kind Rewind revient également aussi sur une idée de Michel Gondry quand il a développé Human Nature et après Eternal Sunshine, il s'est rendu compte en fait, vraiment au début des années 2000, il y avait de plus en plus de remakes. De remakes de films qui ne méritaient pas être remakés et qui encore plus ont coûté plus cher et sont encore plus mauvais. Donc pour lui, il s'est dit, c'est vraiment quelque chose de très autodestructeur de la part du cinéma américain et il s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus en fait. Comment on peut se réapproprier aussi un film ? Comment on peut remaker de notre propre manière un film ? Et en fait, arriver l'idée de Be Kind Rewind, comme je vous ai dit, elle était très proche d'un épisode de la série télé, donc via Amanda Show, mais en fait, c'est pas si éloigné que cela, quoi. Et quand on voit surtout, notamment, en fait, comment maintenant, à travers le temps, parce que finalement, le film a comme j'ai dit, presque 18 ans, l'année prochaine, il aura 18 ans, c'est encore, je trouve, encore plus impactant quand on voit, par exemple, aussi sur le contexte, à travers ce film, de la fin de l'ère vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, on a donc le personnage de Fletcher qui est encore campé sur les cassettes, et finalement, pour lui, l'idée novatrice, c'est de partir sur le DVD. Et le film est sorti en 2008. Mais finalement, quand on revoit le cœur du film, le but de départ qui était de parler en fait finalement d'une à la fois d'une comédie créative et communautaire, notamment donc forcément c'est cher aux États-Unis, le film parle également donc de l'aspect précieux des œuvres et forcément de l'inconscient collectif, mais la mort du format vidéo aussi. Quand on voit donc la fin de la VHS, en plus le format VHS, c'est un format que forcément que je pense peut-être toi aussi tu l'as gardé dans notre d'une certaine manière dans notre cœur parce que finalement c'est quelque chose c'est le premier format vidéo qu'on a utilisé
qu'on a connu
jeune hein, parce que finalement on n'est pas des jeunes mais surtout quand, finalement ce format VHS même avant l'arrivée du DVD c'était un format en fait déjà voué à la disparition. Parce que finalement, la VHS, c'est un format qui avait un gros problème, c'est-à-dire qu'en fait, c'était quelque chose qui disparaissait très facilement avec le temps, les bandes s'enrayaient, les bandes perdaient leur couleur, et le film, forcément, n'était plus aussi visible qu'avant. Et finalement, je trouve que ce format-là et l'idée de l'ère de la fin vidéo, c'est encore d'autant plus marquant maintenant, 17 ans après, puisque en fait, bah, le marché du DVD commence à devenir un marché niche. Le marché du Blu-ray, forcément, il n'a pas vaincu le DVD, donc il a un format de niche également. Le format numérique est en train de tout balayer, en fait. Donc, c'est quelque chose que, finalement, la thématique de Gondry, et d'ailleurs, je trouve que ça, c'est formidable, finalement, quand on revoit ce film à travers les âges, c'est cet aspect, en fait, doux amer de cette fin. La conclusion, elle se termine par la fin du visionnage du film de Fats. Qu'arrive-t-il après ? Est-ce que finalement le bâtiment va être détruit ? Est-ce que Monsieur Fletcher va arrêter son magasin de vidéos ? On suppose que oui. On suppose que oui, parce que forcément, en fait, il y a un dur retour à la réalité. C'est-à-dire qu'on vient de voir un rêve et on retourne à la réalité. Quelle est la conséquence ensuite ? Ben, on le sait très bien, en fait. On le sait très bien. C'est ce qui est arrivé à toute la culture américaine à la fin des années 2000. À un renouvellement dans les années 2010 et 2020, avec l'arrivée notamment du numérique, avec l'arrivée des plateformes, avec l'arrivée de ci, de ça. Enfin, il y a plein de choses, en fait. Finalement, le film est totalement ancré dans l'histoire et finalement, il est toujours aussi, comment dire, clair, net, finalement, dans son message.
Ah, je suis d'accord, carrément. Oui, c'est vrai que t'as ce truc de... Mais moi, j'aimais bien... C'est... Après, tu vois, dans la cassette, c'est vrai que nous, on a connu la cassette, mais tu vois, moi, ce que j'aimais bien dans ce truc de la cassette, c'est que tu pouvais enregistrer n'importe quelle émission. Tu mettais ta cassette, t'enregistrais et tout. Ce que t'as plus avec le DVD, ce que t'as plus avec le Blu-ray. Et ce truc de, ok, d'accord, ça m'intéresse, j'enregistre.
Ouais, ouais.
Et je pense que même le montage et tout, ça devait être beaucoup plus simple avant. Tu te faisais des trucs et tout. Et c'est vrai que ce souvenir, le nombre de cassettes que... Il y avait comment ça s'appelait, un magazine qui s'appelait Télécassette, je crois, ou un truc comme ça.
Ouais.
Tu pouvais récupérer
tu pouvais louer,
les fichettes
vendre,
et tout.
Enfin, oui.
Et moi, je me rappelle le nombre de films que mon père, qu'on a en cassette, parce que mon père pouvait les enregistrer. Il avait Canal+, on mettait la cassette, hop, t'enregistrais en même temps le truc.
Le nombre de programmes que j'ai enregistrés gamin, pareil. C'était une de mes passions, c'était d'enregistrer, en fait, avec le vieux magnétoscope de la maison, surtout quand on avait Canal+. Ça, c'était un marché, limite, c'était un business qu'on pouvait faire limite par la suite, quoi. Que maintenant, forcément, c'est plus
que
la même chose.
Que tu peux plus trop faire maintenant avec le Blu-ray et
surtout
le DVD,
numérique.
Ouais, carrément. Et le numérique, c'est vrai qu'avec tout ce qui est plateforme, avec avec Netflix et tous les autres et tout, c'est vrai que ça devient compliqué, même pour le partage de films. C'est vrai que tu peux. Encore le DVD et le Blu-ray, comme t'as le support physique, tu peux le partager à quelqu'un et dire ah, c'est trop bien, tiens, je te conseille de regarder celui-là. Sur les trucs maintenant de plateforme, c'est vrai que maintenant, comme tu peux plus partager de compte, tu peux plus truquer, le partage devient difficile. Ici, tu peux dire ouais, regarde celui-là, ou regarde, tu vas mettre un j'aime, mais vu que maintenant tu as une. Enfin, je sais. C'est compliqué, je trouve que c'était.
Faut passer un peu comme Jerry et Mike, c'est-à-dire de façon illégale.
Ouais, c'est ça.
Non, mais c'est vrai. Mais voilà, tout ça pour dire, voilà, c'était un petit peu aussi mon aspect. Et c'est vrai que, oui, comme je disais, le format VHS, ça me fait penser aussi également à une de mes connaissances qui avait tellement vu Starship Troopers que le film était en noir et blanc à la fin. Tellement la bande magnétique était détruite. Mais voilà, pour terminer un petit peu sur Be Kind Rewind, il faut parler également de l'après du film. Le film a donc été présenté en avant-première au festival de Sundance le fin janvier 2008. Il sort officiellement le 22 février aux États-Unis et le 5 mars en France. Alors, le film a été plutôt bien reçu par la critique. En France, notamment, donc, le film a terminé avec environ 500 000 entrées. Aux États-Unis, il a fait un petit chiffre pas trop dégueulasse au box-office. Ce n'est pas un grand succès non plus. Ça a été un succès un petit peu caché forcément dans la grosse partie indépendante du cinéma américain dans les années 2000, à partir de mi-2005, où on a eu beaucoup aussi de films indépendants qui a pris énormément d'ampleur et forcément le film a bien marché aussi dans le marché du DVD. ça a été aussi une des forces de pourquoi ce film est devenu quand même d'une certaine manière culte dans l'imaginaire collectif, dans sa réappropriation finalement de notre propre culture cinématographique.
Carrément. Et puis ça a donné aussi lieu à tout un truc de concours et tout avec des films suédois. Ça a donné lieu à une envie des gens de dire bah tiens, je vais refaire des films aussi pareils.
Une des plus grandes particularités et un des plus grands efforts qui a été fait en fait à travers ce film et à travers les âges, c'est la popularisation du mot suédois. Gondry, en fait, a compris qu'il pouvait aussi faire participer son public à travers cette idée-là. Et d'ailleurs, un concours fut même organisé, donc avec trois films amateurs font partie des bonus du DVD du film. On retrouvait notamment, par exemple, il y avait un Pulp Fiction qui était en pâte à modeler, qui était absolument exceptionnel.
Il y a Tron aussi, je crois.
Oui, il y a Tron. Mais il y avait ce petit côté amateur qui marchait très, très bien. Et finalement, en fait... Je trouve que l'idée de... D'ailleurs, il avait ouvert une école de films amateurs, Gondry, par la suite, à la sortie du film. Parce qu'il voulait, en fait, voilà, perpétuer en fait, un petit peu cette idée de se réapproprier les films, mais surtout, en fait, de les faire avec notre propre façon et notre propre cœur, quoi. C'est-à-dire que, en fait, faire un Pulp Fiction en pâte à modeler, ça n'engage en rien, ça ne gâche en rien le plaisir de revoir l'original. Ça peut être fait de cette manière-là. Finalement, il a été un petit peu précurseur aussi de ce qu'a été plus tard les fan-films qui commençaient à apparaître également sur YouTube à cette période-là. YouTube avait finalement été aussi une des plateformes qui a déjà à cette époque aussi amené beaucoup de choses dans cet imaginaire et surtout dans ce terme, ce qu'on pourrait appeler le suédois en fait. Finalement, en fait, Gondry a travaillé là-dessus, a joué là-dessus et finalement, en fait, Je trouve, à mon sens, bon, peut-être que certains ne seront pas d'accord, mais finalement, en fait, l'idée de suéder ce genre de choses est un peu précurseur ce que pouvait donner finalement la plateforme Vine qui arrivait quelques temps après, qui était une application en fait vidéo, alors de 6 secondes, mais en fait qui basait sur l'inventivité et la création en fait des contenus. Et je trouvais qu'en fait c'était absolument formidable ce genre de procédé-là. Et finalement, et c'est ancré aussi dans cette continuité de ce que voulait faire Gondry. Quoi.
En plus, dans ce côté aussi coupé-monté, qui, ouais. Qui est propre au truc de Vine et tout, effectivement, ouais, t'avais des choses qui étaient faites qui étaient assez folles. Hein, qui étaient, c'est comment tu te réappropries, ouais, comment tu te réappropries les choses et tout. C'était assez, non, c'était assez exceptionnel ce qu'ils proposaient. T'avais aussi bien des vidéos humoristiques que des vidéos un peu plus travaillées, même ouais, pas, alors que c'était que 6 secondes, hein, mais t'avais des choses qui étaient assez folles. Et effectivement, tu retrouves, enfin, c'est vrai que ce qu'a apporté Gondry, c'est tu retrouvais un peu de ça dans les Vines après, ouais, carrément.
Bah, en fait, le côté inventif débrouillardise. Ouais, c'est-à-dire voilà, qu'en c'est fait, il n'y a pas de limite. Gondry a toujours eu un peu cette idée-là, c'est-à-dire que je vais pas, enfin, il n'allait pas s'imposer des limites, c'est-à-dire qu'il va essayer de trouver des solutions dans ses idées de mise en scène ou autre. Et ça s'est encore vu, je pense, après dans sa carrière, parce que finalement, en fait, donc après. Après Be Kind Rewind, Gondry donc va continuer notamment donc avec quelques documentaires par la suite, mais notamment on va le retrouver un peu comme dans des idées un petit peu concept, notamment dans The We Hunt High, qui est un film américain où tout le concept en fait du film se déroule dans un bus. Après forcément il va s'attaquer à quelque chose de qui va lui faire beaucoup de mal. Je dirais en fait l'année 2010, c'est un peu l'année du succès, mais aussi d'une certaine perte, je dirais pas d'identité, mais peut-être une perte en fait un petit peu de, comment dire, de marcation en fait, de style propre à Gondry, parce que finalement, en 2010, 2010, il va le tourner et il va sortir en 2011, c'est The Green Hornet, donc qui est un projet qui va être qui va pas lui plaire, notamment le système hollywoodien, ça va pas du tout à l'intéresser dans cette idée de continuité, de continuer en fait dans cette voie-là.
Mais tu sens en plus que dans le film, quand tu vois le film, tu vois pas trop la patte de Michel Gondry dedans, non. Quoi. Tu sens qu'il a été, c'est vraiment un
il
film
a été
de
freiné.
Ouais, voilà. On dirait un peu un film de commande. C'est The Green Hornet, c'est le remake. C'est en plus un remake d'une série des années. Je sais plus si c'est 70 ou 80.
Années 60 avec
Bruce Lee, ouais. qui faisait le major d'homme de ce Green Hornet et qui a été repris par, c'est avec Seth Rogen et Cameron Diaz, mais on sent qu'il n'y a pas du tout la patte de Gondry, c'est plus un travail de commande où ils ont fait appel à lui un peu comme un yes man, où ils ont dit bah allez c'est Gondry, ça va amener une patte.
En fait Gondry en fait par la suite en fait va répondre en fait aux sirènes hollywoodiennes, il va vouloir aussi un peu s'intéresser à comment ça marche là-bas, et en fait c'est quelque chose qui ne lui plaît pas en fait,
non.
Mais il le savait limite par avance, en fait, ce que ça allait donner, quoi.
Mais qui correspond pas à ce qu'il a, enfin, ce qu'il fait après, ce qu'il a pu faire avant ou ce qu'il va faire après par la suite aussi. C'est vrai qu'il est plus dans ce truc, dans cet entre-deux, comme tu disais tout à l'heure, entre le, c'est pas du blockbuster et c'est pas non plus un film d'auteur, mais il est meilleur dans cet entre-deux plutôt que d'aller où dans le complet blockbuster. De toute façon, en allant dans le complet blockbuster, tu vois qu'avec The Green Hornet, c'était quelque chose comme ça qui était prévu comme étant un grand blockbuster et qui a pas fonctionné, enfin, qui a pas été une.
Et je pense que c'est quelqu'un qui adore, voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui adore en fait avoir des contraintes, que ça soit donc financière ou même en fait par l'écriture. Donc, comme je disais, donc après il va faire notamment donc un film qui va se dérouler uniquement dans un bus, The We Hunt High. Et c'est vrai qu'en fait il va retourner en France en 2013 également avec un autre projet, que l'adaptation de L'Écume des Jours, qui est basé donc sur le roman éponyme de Boris Vian. Et c'est un projet casse-gueule parce que L'Écume des Jours en fait c'est quelque chose qui est difficilement adaptable.
Ah ouais carrément. C'est il a tout comme Gondry, il a son univers cinématographique. Boris Vian, il a un univers à lui aussi qui est. Je pense qu'il faut être dans sa tête pour comprendre son univers et tout. Et pourtant, même si le film est pas, il a pas eu le succès. Je pense pas qu'il ait eu le succès qu'il voulait. Mais je trouve que les deux correspondaient bien. Et on retrouve un peu l'imaginaire de Gondry avec. Il y a un moment, ils ont une espèce de pistolet pince. Et il y a tout ce truc où il veut tuer une personne, et en fait il croit que t'as une des femmes qui voit le truc tomber, elle lui redonne et lui dit ah tenez vous avez fait tomber votre pince à sucre. Mais il y a des trucs comme ça, et visuellement c'est assez fou, Et ça correspond bien. Enfin, on retrouve la patte bric et broc, de construire des choses, des inventions qui sont toutes plus fun les unes que les autres, très oniriques de Gondry. Mmh. On le retrouve dans ce film.
Parce que c'est vrai qu'en fait, ouais, ça, c'est vraiment la grosse particularité de Gondry. C'était quasiment toutes les idées, en fait, que l'on retrouve dans ses films, il les a dessinées et les a en partie développées.
Ouais,
en vrai, quoi.
Il a, c'est vrai que on en a pas parlé, mais dans Beacon Rewind, tous les costumes que les vous costumes voyez, Robocop, toutes les voitures et tout, voilà. Il a tout dessiné.
Il allait
avant,
à la casse, quoi. Il reprenait les trucs et s'est dit, tiens, bah oui, en fait, les ailes de bagnole, on en fait des protections de jambes comme si c'était Robocop. Enfin, il y a tout plein d'idées absolument novatrices de cette manière-là, quoi. Et mais Gondry, en fait, c'est quelqu'un qui a toujours, en fait, bah voilà, c'est comme je disais, donc il est issu d'une famille où on est très porté sur les arts appliqués, l'inventivité, l'électronique. Il y a un truc qui me fait marrer aussi dans le making-of de Be Kind Rewind, c'est qu'en fait on le voit se trimballer avec un appareil photo qui est très bizarre. En fait, c'est un appareil photo, c'est un double appareil photo qui sont reliés en un seul avec deux objectifs, parce qu'en fait ça lui donne en fait de faire des espèces de d'impressions photo en presque en 3D en fait, c'est-à-dire avec la vision binoculaire, quoi. C'est complètement fou. Mais cet homme-là, je dirais pas que cet homme est fou, il est très particulier. D'ailleurs, il l'a avoué lui-même en fait durant la promotion en fait de son film Le Livre des Solutions. Il révèle donc d'ailleurs d'avoir été diagnostiqué donc bipolaire, à la suite d'un épisode en fait maniaque durant la production de L'Écume des Jours. Il disait donc, je prenais des médicaments pour l'humeur et des obsessions intenses qui m'empêchaient carrément de vivre. Durant le tournage, ça s'est dégradé. À la fin, je suis resté dans le studio pendant un mois et demi. On a commencé le montage, j'ai arrêté mon traitement. Là, mon esprit a explosé, un mélange de mégalomanie et de peur, avec des moments super intenses où j'avais l'impression de faire partie de l'histoire, de créer des choses totalement innovantes. Un psychiatre m'a diagnostiqué bipolaire peu après. C'est vrai qu'en fait, c'est quelqu'un qui est tellement à fond en fait dans ses idées, dans son développement, dans son style, qu'il a déjà un peu ce côté lunaire en fait quand on le voit, quand on le parle, quand il va notamment sur la promotion de ses films. C'est d'ailleurs très drôle quand il va à l'avant-première donc de Be Kind Rewind à Sundance. Les gens ne captent, alors forcément il n'est pas connu, mais les gens ne captent pas que c'est le réalisateur du film, et du coup en fait il est limite en train de débattre avec les gens pour dire non mais je suis le réalisateur, et les gens disent bah écoute, t'as qu'à appeler Mos Def tout de suite pour qu'il vienne avec toi, alors qu'en fait le pauvre il est juste là pour promouvoir son film. Mais ça fait partie du personnage. Il est quelqu'un de très particulier, de gérer quand même, de très attachant, et surtout d'une inventivité
qui est assez folle. Alors, dans le Livre des Solutions aussi, si vous avez l'occasion de le voir, il y a des choses qu'on voit dans le film mais qui ont été faites pour de vrai. Il a fait un camion de montage,
ouais,
qui est assez fou quand même, où il y a des écrans un peu partout, et en fait le volant sert à faire le montage,
et il marche,
c'est ça qui est assez, ouais. Le mec a inventé ça, il a 10 000 idées à la seconde en fait,
le
c'est
banc
ça.
De montage dans un van, enfin je trouve ça l'idée c'est folle, quoi.
T'appuies sur le klaxon, je sais plus le klaxon ça faisait quoi, mais je crois que ça permettait
ça
de cutter,
je crois,
ou même les clignotants permettaient de cutter et tout, et tu te dis mais c'est génial en fait, le mec a je pense que et ouais quand vous voyez ces films, les cahiers de dessins qu'il a, c'est assez fou, le mec a une idée, tac, il le dessine, il essaie de le mettre, et non c'est assez, ce mec est assez exceptionnel. Et il a des, mais même, alors c'est toujours aussi dans le Livre des Solutions, mais lui il le dit en interview qu'il a pu faire ça aussi, le truc de il va voir pour faire la musique de son film, il va voir des orchestres et il leur fait écouter, suivez pas le gars, vous allez me suivre moi, et tel geste ça représente, faut aller plus fort, tel geste c'est les graves, tel geste c'est les aigus, et le mec en fait se dit bon bah allez, vous allez suivre mon corps va faire la musique,
c'est ça.
Et dans l'interview où il parle de ça, il dit, et généralement en fait ça fonctionnait même très bien, et tu dis bah ouais, mais le mec dit bon on essaye au pire, c'est ça qui est bien aussi, c'est se dire on essaye, au pire ça marche pas, et au pire ça fonctionne, quoi.
Oui, non, mais c'est la particularité de cet homme-là, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, on l'a également vu aussi dans la préparation de documentaires qui sont forcément très reliés sur la musique, donc notamment Dave Chappelle's Black Party ou encore l'épine dans le cœur. C'est vrai que c'est quelqu'un qui arrive toujours en fait à amener pas mal d'idées en fait dans ses styles, mais forcément comme je le disais en fait il a un côté un peu farfouillé qui forcément par moment en fait nous met un petit peu en dehors de ses films. Dans Be Kind Rewind, en fait, le film en fait part dans pas mal de choses et en fait oublie aussi de faire avancer ses personnages, notamment le personnage de Mélanie Diaz, je trouve, qui à un moment donné est direct d'un coup en retrait, on ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est toujours quand en fait quelqu'un qui est très important, notamment dans son développement de la vie des personnages, en fait. Il arrive toujours quand même à développer quelque chose là-dessus qui est toujours très intéressant. Après, il s'est un petit peu foiré sur certains projets, notamment, par exemple, je trouve que Microbes et Gasoil est vraiment un projet qui s'est un petit peu, qui est totalement casse-gueule et qui n'a pas du tout marché. Le Livre des Solutions, c'est un film beaucoup plus surprenant qu'il n'y paraît. Et c'est vrai que c'est dommage parce que finalement, 2025 devait sortir son dernier projet, en fait, qui s'appelle Golden, en fait, qui est un film donc, réalisé par Gondry qui, en fait, est un film en partie biographie qui se déroulait en 77, qui s'inspirait de la jeunesse en fait de la jeunesse de Pharrell Williams dans la résidence d'Atlanta Apartments, et finalement en fait à Virginia Beach, et finalement donc ce film a été annulé par le studio on ne sait comment, et voilà quoi.
Qui avait l'air en plus assez fou aussi, il travaillait vraiment en très très étroite collaboration avec Pharrell. Des petites infos qui ont pu circuler, ça avait l'air d'être un film assez assez fou. Je sais pas s'il a été fait avant ou après le film Lego sur Pharrell. Je sais pas si ça
est-ce
a engendré
que c'est un problème
ça,
de concurrence,
ça, je
ne
sais pas. Mais c'est dommage, ouais. Il s'est même réessayé, là, il a recollaboré un moment avec. Avec Jim Carrey dans la série Happy, je crois que ça s'appelle, si je dis pas de bêtises, sur un homme qui fait une dépression et qui a une
Kidding,
émission
pardon.
Kidding, ouais, Kidding, voilà Kidding, où il fait une émission pour enfants avec des marionnettes et en fait c'est une émission familiale, il y a le père qui travaille dedans, il y a lui qui travaille et qui était très bien avec des idées aussi de mise en scène qui sont assez folles, mais je crois que sur la première saison ça s'est bien passé et puis après
la deuxième, ouais,
ça a été plus compliqué
et ça a été la fin de toute façon, de toute manière il y a eu que deux saisons et c'est vrai qu'en fait voilà c'est quelqu'un qui notamment avec il y a un plan, enfin ça avait beaucoup tourné sur internet, je me rappelle où on voit comment le plan séquence de Kinning avait été développé à travers, enfin en fait le film, ce plan séquence racontait en fait la vie de l'intérieur d'une maison à travers les âges, et en fait on voyait tout un travail chorégraphié avec les différents techniciens qui changeaient les meubles, qui changeaient
c'était
la télévision,
fou, ouais.
C'était assez fou, c'était assez novatrice, et ça montrait finalement tout ce qu'il avait réussi à faire avec ses clips, hein, mais j'en reviens là-dessus, mais c'est vrai qu'on voit les différentes collaborations qu'il avait avec le temps. Au début il faisait pas mal de choses, notamment en France forcément, il avait même fait aussi le clip Où Mamma Mia, donc pour son frangin, pour les Négresses Vertes, il avait fait donc Je danse le Mia, qui est quand même une idée géniale en fait, où il utilise le principe du morphing qui avait été popularisé par Michael Jackson à travers ce clip, mais en fait c'est juste pour faire un espèce de, comment dire, interpoler en fait les trajets de caméra, et du coup c'est très très je trouve que c'est hyper novateur en fait pour cette époque là et il l'avait également fait aussi après plus tard pour Like a Rolling Stone, donc le clip de Rolling Stone, où en fait il le fait carrément avec des photos.
Et on a l'impression, c'est bien parce que ça
fait... Il y a une
impression
de mouvement de
fou. Ouais, voilà, de mouvement qui est assez folle. Et on a l'impression que même en même temps, la personne qu'on voit de temps en temps, elle est un peu, il y a un peu de truc de... comment dire, un peu bourré ou un truc comme ça. Enfin, l'image est vraiment très belle et c'est hyper inventif, quoi. Mais je pense que c'est... Ouais, effectivement, c'est quelqu'un... Et dans le making-of de Be Kind Rewind, tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin d'expérimenter, d'exercer...
Il a toujours besoin d'expérimenter et il a toujours une caméra à côté de lui.
Ouais,
en fait.
Voilà,
c'est
ouais,
ça qui est impressionnant.
C'est ça.
Je pense qu'il doit avoir une bande de Denis absolument démentielle.
Ouais, je pense. Ah, ouais.
Si
mais
un
même
jour, il y a un
carnets...
documentaire faire sur sa vie, ça va être carrément, bonne chance à l'archive.
Mais même des carnets, il doit avoir des carnets de dessins et tout qui doivent... ça doit être assez fou. Ça doit être assez fou. Mais tu vois, il y a des images qui ont... il a tourné plein de trucs. Pour Be Kind Rewind, tu vois qu'il a tourné plein de trucs. À un moment, il leur a fait faire du slow motion.
Ouais.
Et finalement, s'il n'est même pas dans le film.
Non, non.
Mais tu te dis... Donc du coup, il a dû... Je pense que si ça, qui n'était pas dans le film, et qui est une idée, mais il leur fait marcher à ralenti, et il lui disait, oui, vous allez marcher au ralenti, et moi, après, au montage, je vais refaire du ralenti pour que ça fasse vraiment du slow motion. Et finalement, ça, dans le film, vous le voyez pas, mais du coup, il doit y avoir des centaines et des centaines de films. Tu vois, à un moment, qu'il devait parler de Superman, il devait parler d'autres, plein d'autres films
oui, y a plein
qui ne sont
qui
pas
annulés,
finalement.
Ouais, ouais.
Et tu te dis qu'il doit y avoir, il doit avoir ouais, des tonnes et des tonnes d'heures de rush. Ça doit être assez impressionnant, quoi.
Ouais. Merci Guillaume pour cette émission.
Bah, merci à toi.
Merci Joris à la régie. On s'arrête là-dessus, on revient pour un tout autre sujet d'émission. On termine avec un morceau issu du film, le morceau en fait de la séquence de Rush Hour 2, parce que j'adore ce morceau.
Ah, très bien.
Merci à toi Guillaume.
Merci à toi.
Merci à tout le monde. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Ciao tout le monde.
Salut.